Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de voir un reportage sur des animaux dont on parle peu et qui vivent principalement aux États-Unis. C'est là que je me suis dit, je suis vraiment très content de ne pas être américain. On y parlait de l'opossum, vous voyez, hein, par exemple. Et ce reportage m'a complètement bousillé ma vision de l'opossum. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait un dessin animé avec un opossum qui était tout mignon, tout sympa, plutôt intelligent. Et dans ce reportage, je me suis rendu compte que ce truc était loin d'être sympa, qu'il avait des dents de cette taille-là. Et que quand vous en avez un dans votre maison, dans votre placard ou en dessous de votre maison, c'est une galère terrible pour vous en débarrasser. Puis le reportage s'est attardé sur un couple de retraités qui habitait une charmante maison dans un magnifique décor, dans une vallée entourée de montagnes. Et ce brave couple a alors expliqué qu'un samedi matin, ils avaient été réveillés par une odeur indescriptible qu'ils ont d'abord attribuée à une fuite de gaz. Ils ont donc appelé les services concernés, pompiers et autres, pour découvrir que finalement, c'était un putois qui avait élu domicile avec toute sa famille en dessous de leur maison. Ils ont contacté tous les exterminateurs possibles de la région, mais aucun d'entre eux n'a daigné se déplacer pour régler simplement son compte au putois. Alors ils se sont dit, en philosophe, que tout finirait par s'arranger tout seul, encouragé en cela par le fait que l'odeur diminuait progressivement. En réalité, l'odeur ne diminuait pas. C'était eux qui s'y habituaient. C'est lorsqu'un voisin leur fit remarquer qu'il régnait dans leur maison une odeur pestilentielle qu'ils se sont décidés à chercher quelqu'un capable de murmurer à l'oreille des putois. Et le gars en question a fini par découvrir qu'il y avait en fait deux putois vivants en dessous de la maison qui avaient fait leur terrier et un putois mort. Une fois les bestioles évacuées, tout rentra dans l'ordre et ils ont terminé le reportage en disant: ce couple bien gentil au demeurant, cela nous a coûté des sous, mais ça en valait vraiment la peine. Alors, pourquoi vous racontez cette histoire de putois? Bien parce que je pense qu'on peut en tirer une application pratique quand ça concerne nos vies à chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas vous débarrasser d'une odeur de putois sans vous débarrasser du putois. Notre odorat, on n'est pas à tous égaux à ce niveau-là, mais tout de même, notre odorat possède une puissance unique à évoquer quoi? En fait, de l'émotion. Pensez au parfum d'une fleur, à une fragrance aromatique, aux senteurs de certaines épices. Eh bien, dans nos vies intérieures, ce sont nos émotions, ce que nous ressentons, qui agissent en termes d'arôme. Vous voulez savoir où en sont vos émotions, quel type d'émotions vous êtes en train de produire en vous? Ce sont justement les odeurs que ça dégage qui vont vous dire si ce sont des émotions positives qui portent en elles la vie ou des émotions négatives. Alors, nos émotions positives, la joie, le plaisir, la gratitude, j'ai pensé à ça, mais ça peut être autre chose, ont des odeurs, par exemple, de pain fraîchement sorti du four. Je pense que tout le monde aime l'odeur du pain qui sort du four. Nos émotions négatives, la tristesse, l'inquiétude, la colère, peuvent par contre, il y en a d'autres, hein, peuvent par contre nous donner envie d'évacuer nos propres vies. On a parfois marre de vivre ce que l'on vit. Lorsque ces émotions nous frappent, notre humeur plonge et nous perdons de l'énergie. Dieu nous semble distant, la prière, la relation à Dieu semble vide, le péché est diablement tentant, en tout cas plus que d'habitude, et notre vie nous semble maussade, sans aucun intérêt, sans aucun goût, totalement insipide. Ce qu'il faut comprendre, Bible en main, c'est que nos émotions ne nous viennent jamais par hasard. Elles ne tombent pas du ciel. En fait, voici la règle générale. Nos émotions découlent de nos pensées. Ce n'est pas pour ça que parfois vous n'avez pas des émotions négatives qui vont vous submerger, hein. Mais savoir que ces émotions sont en grande partie le fruit de vos pensées, autrement dit, ce sur quoi vous vous concentrez, ça peut faire une différence. Par exemple, les gens découragés, ça ne va pas vous étonner, ont tendance à avoir quel type de pensée? Ben, décourageante. Les gens inquiets ont tendance à avoir des pensées anxieuses, les gens amers ont tendance à avoir des pensées du même type qui entretiennent l'amertume. Et ces pensées deviennent tellement automatiques que même si ça sent mauvais, si on laisse aller un trop long laps de temps, si on ne prend pas conscience que quelque chose est en train de submerger, de prendre la direction de notre vie, eh bien, cette odeur de négativisme, ces pensées vont commencer à diriger votre vie, vont commencer à contrôler vos émotions, et vous n'allez finalement plus vous rendre compte que vous êtes en train de vivre ça, de ressentir ça. Nous nous habituons à ce que les Anglais, les psychologues anglais appellent les « stinking thinking », les pensées puantes. Nous nous habituons à la présence du putois. Alors, on va prendre un exemple biblique de ce processus de pensée puante. C'est un texte du premier livre des Rois. Bon, la référence est le verset 14 pour les puristes, 1 à 14. Alors, Akab, c'est un roi catastrophique d'Israël. D'accord ? C'était le mari de Jézabel, si ça vous dit quelque chose. Évitez d'appeler votre fille Jézabel, ce sera gentil pour elle, n'est-ce pas ? Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, Élie qui est le grand prophète de l'époque, et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Première petite réflexion, je pense que ce genre de processus peut nous arriver à tous. Donc il n'est pas ici question de stigmatiser un vécu particulier qui peut arriver à tout le monde. Moi, il y a des moments où je suis un putois. Ça m'arrive. Le prophète Élie vient d'atteindre un sommet dans sa vie spirituelle. Et ça, c'est très intéressant. Il sort d'une victoire invraisemblable, où il a demandé à Dieu d'intervenir, où Dieu est intervenu puissamment, où il a, devant tout Israël, montré que les dieux adorés par le roi et la reine en place à l'époque étaient de faux dieux, des idoles abominables qui demandaient tous les ans un sacrifice d'enfants. C'est pas simplement dans le texte biblique qu'on apprend ça, c'est même dans les livres d'histoire qui couvrent la période, etc. C'est une énorme victoire. Et moi, ça me fait penser parfois à certains moments de ma vie où j'ai prêché des trucs, où il y a vraiment des grosses choses qui se sont passées dans la vie des gens, et c'était merveilleux, c'était une intervention de Dieu ce jour-là. Et le lendemain, j'étais complètement vidé, j'étais à plat, j'ai jamais compris le phénomène. En fait, on y touche un petit peu, là, je pense. Donc, il faut garder ça à l'esprit pour se dire, encore une fois, comment est-ce possible d'avoir une telle victoire, d'avoir une telle émotion spirituelle, d'avoir une telle présence de Dieu, et le lendemain, suite à un événement qui n'est pas anecdotique, mais c'est qu'un événement dérisoire par rapport à ce que Dieu a fait la veille, Élie, et ce n'est pas n'importe qui Élie, c'est un grand prophète, Élie est sur son derrière. On va essayer d'examiner ses pensées, Élie. Alors, je n'ai pas pris tout le texte, ce serait trop long. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Je me sens indigne, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Alors, on peut se dire, « Ah, c'est une belle honnêteté. Où est le problème ?» Le problème, c'est qu'il ne se dit pas, « J'ai besoin de Dieu. » Il se dit, « Je suis un mot de cinq lettres. Je ne vaux strictement rien. » Ce genre de pensée, mes amis, ça vient jamais de Dieu. Qu'on ait besoin de Dieu, ça c'est sûr. Surtout quand on est en dessous de tout, ça peut nous arriver à tous. Mais on ne peut jamais se résumer à ça. Parce que c'est quoi ? C'est quelque part, faire honte à Dieu. On ne peut pas se dire « je suis une cosmique, je ne vaux rien du tout » puisque Dieu est là et Dieu nous donne notre valeur. Deuxièmement, il est désespéré. Verset 3, il fuit pour sauver sa vie. Et alors, c'est pas comique du tout, mais quand on réfléchit, il fuit où ? Dans le désert. Moi, s'il y a un lieu où je n'ai pas envie de fuir, c'est le désert. Pourquoi ? Parce que vous allez mourir dans le désert. C'est un lieu de fuite où une seule chose vous attend, c'est la mort. Il se sent seul, verset 9 et 10, « Je suis le seul qui reste, Seigneur, bouhou, bouhou, il se plaint, et voilà. Okay. » Il se sent incapable d'en sortir, et donc la seule échappatoire à ses yeux, à lui, c'est la mort. Il dit à Dieu, ça me faisait penser à Moïse, qui a demandé la même prière à une certaine époque de sa vie, « J'en ai assez, prends-moi la vie. » Nous sommes en présence, ni plus ni moins, dans cette demande de la première demande d'euthanasie active recensée de l'histoire. Et l'infirmier à qui on le demande, ou le médecin, c'est Dieu. Et c'est un des plus grands prophètes de la Bible qui demande, entre guillemets, cette euthanasie assistée. Alors heureusement pour nous, Dieu est un grand thérapeute. Il va pas répondre à Élie. Il va pas aller rechercher systématiquement la confrontation. Il dit rien. Ça, je pense, c'est un bon indicateur. Il y a des souffrances quand elles sont exprimées. Dans un premier temps, du moins, la meilleure chose à dire, c'est de ne rien dire du tout. Éviter, là, oui, tu devrais ceci, il faut que cela, et gna gna gna, fermez-la. Ça, c'est le premier niveau, ça. C'est l'attitude des amis de Job quand ils apprennent ce qui lui arrive. Alors, pendant une semaine, ils sont là, ils pleurent avec lui et ils la ferment. Et ça, c'est merveilleux. C'est à partir du moment où il l'ouvre que ça commence à être cataclysmique et catastrophique parce qu'il débite que des conneries. Donc Dieu ne dit rien, mais il va prendre soin. Il va commencer par offrir à Élie une petite sieste à l'ombre d'un arbre. En fait, ce n'est pas un arbre, c'est un genêt. Un genêt, c'est une petite plante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un genêt, mais imaginez que ce truc donne de l'ombre, c'est quasi miraculeux. Donc c'est déjà un petit miracle. Il est à noter également que Dieu ne reproche rien à son serviteur du style « Comment tu as le privilège de me servir et de me connaître ? Grâce à ma puissance, je t'ai permis d'avoir une grande victoire spirituelle hier. » Et tu as l'audace de ne pas aller bien. Tu veux peut-être que je te donne le numéro d'un psy. Après tout, ce que j'ai fait pour toi, la vie merveilleuse et spirituelle que je te donne, tu es un ingrat, Élie. Nous, on dirait bien ça. Quelle andouille ce mec, hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui, il attend quoi. Dieu ne dit pas ça. Dieu, il accueille ce que cet homme qu'il aime est à un certain moment donné. Heureusement pour Élie et pour nous, Dieu n'est pas un homme. Il ne fait pas de reproches. Il invite au contraire son serviteur à se reposer parce qu'il en a besoin. De plus, Dieu va lui donner à manger. Les traductions diverses, parfois un pain, mais je pense que l'hébreu est plus dans le sens de va lui donner à manger des biscuits, en fait, des biscuits cuits sur la pierre. Et là, eh bien, il y a cette odeur de biscuits qui sort du four, en quelque sorte. De quoi déjà, sur les narines, se souvenir combien le Seigneur est bon. Et à ce stade-là, Élie est encore perdu dans ses pensées morbides, hein, mes amis. Les biscuits, il a peut-être mangé parce qu'il en avait besoin. Dans le désert, il n'y a pas à manger. Donc, il avait besoin de manger, de s'alimenter. C'est Dieu qui l'alimente. Mais là-dedans, c'est toujours le putois qui domine. Hein. La preuve qu'il est toujours dans ses pensées morbides, c'est qu'un ange lui parle, il le serre, il ne s'en émeut, d'après le texte en tout cas, même pas. C'est comme si cet ange était transparent. Ce signe de la présence de Dieu à ses côtés passe totalement inaperçu. C'est valable pour nous aussi. C'est quand on sort de ces zones de turbulence négative qu'on se rend compte que Dieu était présent. Quand on est dedans, malheureusement, on est souvent aveugle. Ensuite, Dieu va donner à son prophète Élie une petite thérapie cognitive afin de remplacer chacune de ses pensées tueuses de vie. Il faut les remplacer. Il va donner à Élie une apparition de sa personne. Vous connaissez le texte, hein, il y aura la tempête sous le Sinaï et le tremblement de terre et tout ce que vous voulez. Élie s'est mis à l'abri dans une grotte et là, il ne sort même pas de sa grotte parce qu'il sait très bien que Dieu ne se trouve pas dans ce genre de manifestation grandiloquente. Non. Il va sortir de sa caverne lorsqu'il va discerner la présence de Dieu dans, et je suis plus proche de l'hébreu en disant ça, dans un silence éloquent, donc un silence qui parle. C'est là que Dieu est présent. Alors la question qu'il faut se poser, quel type d'impact possède une apparition de Dieu ? Quand je dis apparition, mettez-la entre guillemets, vous n'attendez pas à le voir tel qu'il est, parce que actuellement, en tout cas, ce n'est pas possible. Eh bien, très souvent, j'ai remarqué ça, quand Dieu apparaît, d'une façon ou d'une autre, ça se passe souvent lorsqu'un homme est tellement désespéré que son être intérieur est près du craquement généralisé, quand ça va vraiment casser. C'est le cas pour Moïse qui demande la mort et finalement demandera à Dieu de lui montrer sa gloire. C'est intéressant. D'abord, il dit « Je veux mourir, je veux que tu me tues, j'en ai assez. » Et juste après que Dieu rentre dans l'équation, il parle à son serviteur. Là, il lui demande de montrer sa gloire, ce qu'il ne fera pas parce que ça aurait tué Moïse. Par contre, il dit « Tu te retournes, tu te caches le visage et je vais faire défiler devant toi ma bonté. » Ce dont tu doutes, et c'est pour ça que tu veux mourir, c'est que je suis bon. Et c'est toujours de ça qu'on doute à la base. Quand on ne va pas bien, c'est de la bonté de Dieu. Même Jésus est passé par là. Il n'y a que Luc qui relate ça. Mais quand il est angoissé à un point qu'on ne peut même pas imaginer dans le jardin de Gethsémané, l'évangile de Luc, donc Luc nous dit qu'un ange lui est apparu avec comme mission de le fortifier. Un peu comme si Dieu voulait dire « Je sais que ce que tu vis sur cette terre est terrible. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de sortie à ça. Je vais te redonner un petit goût du ciel. » De ce qui est vraiment important. C'est toujours ça qui se passe quand Dieu apparaît, hein. C'est qu'il y a la dimension céleste qui rentre en corrélation avec notre réalité terrestre. Donc apparemment, ce qu'on peut en déduire sans risquer trop de se tromper, c'est lorsque Dieu se montre, c'est pour briser l'enfermement de la désespérance. Quand Dieu va dire finalement à Élie, retourne d'où tu viens, c'est retourner à ses problèmes, la menace de cette reine, etc. Donc les circonstances n'ont pas changé. Il lui dit, retourne. Alors il ne dit pas à son serviteur, retourne pour qu'elle puisse te couper ta tête. Pas du tout. L'objectif, c'est toujours remplir le futur du prophète d'espérance parce que Dieu sera avec lui. Retourne d'où tu viens. Ce qui signifie cesse de me déranger, ça ne signifie pas cesse de me déranger avec tes petits problèmes, mais bien retourne à ta vie, retourne à ta vocation, à ce que j'ai fait de toi, à ce que je suis en train de faire de toi. Retourne vers ceux qui ont besoin de ce que je t'ai donné. Retourne vers tous ceux qui ont besoin de ta vie. Les relations humaines, pour Dieu, ça sert à ça. Que nous prenions conscience de ce qu'il nous a donné à faire pour que nous puissions le donner à d'autres, que les autres en soient bénéficiaires. Et puis, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, avant qu'il ne reparte, Dieu lui dirait quand même, il y a un petit scoop, tu dis que tu es tout seul. Tu es tout seul à me servir, tu es tout seul à me prier, tu es tout seul à me connaître, tu es tout seul à m'obéir, ce n'est pas vrai. Il y en a 7000 qui sont aussi en danger physiquement que toi, selon sous ce roi tyrannique, qui n'ont toujours pas plié le genou devant les faux dieux, devant les idoles. Donc tu n'es pas tout seul. Et enfin, Dieu redonne du sens à la vie d'Élie en lui donnant une nouvelle mission, former un successeur. C'est vrai que ça aide, avoir la relève qui pointe le bout de son nez. En définitive, Élie pensait que son problème, en fait, c'était Jézabel. Sa circonstance, cette reine terrible. Alors, il y a une mauvaise nouvelle quand même là. Il faut quand même que je vous la dise, mais vous en doutez un petit peu. Des Jézabel, il y en aura toujours dans nos vies. Des choses qui vont nous perturber, qui vont nous foutre par terre. Des mauvaises nouvelles, des gens abominables, des gens, enfin soit. Quelle que soit la forme que ça prend, ça ne sera jamais un long fleuve tranquille. Le véritable défi se situe donc à un seul et unique endroit, entre nos deux oreilles. Je le fais bien, là. La manière dont nous vivons sera inévitablement le reflet de la manière dont nous pensons. Ça va se voir sur votre tête. Ou alors il faut être aveugle. Il y a des gens qui ne veulent pas voir, forcément. Ils ont assez avec leurs propres problèmes, mais... Ce que vous êtes, ça va se voir. Donc, le véritable changement commence là, dans la façon où nous pensons. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si Dieu a changé la façon de penser de notre ami Élie, il peut aussi bien changer la nôtre. Donc, ce qui fait que les gens sont ce qu'ils sont, en partie, il y a l'éducation, on n'a pas tous les mêmes parents, etc. Il y a une partie de déterminisme. Si vous êtes élevé par des parents aimants, vous avez plus de chances d'être structurellement bien monté émotionnellement. Si vous êtes élevé, ça arrive. Si vous êtes élevé par deux catastrophes à roulettes qui sont eux-mêmes des blessés congénitaux, le résultat ne va pas être triste. Mais quand même, ça joue, ça c'est sûr. Mais il n'empêche que ce qui fait que les gens sont ce qu'ils sont, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, vient principalement de votre façon de penser. Alors c'est terrible, vous dites, je suis en plus responsable de ça. Oui, mais quand on est responsable d'un truc, c'est qu'on a la capacité, avec l'aide de Dieu, de modifier ce truc. Là, il n'y a plus de déterminisme. Vous vous souvenez de ce verset, je l'ai souvent cité dans plusieurs contextes différents, parce qu'il est fondamental, je pense, ce texte de Romains 12, verset 2. « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence ou de votre pensée, pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » On connaît ce verset, la plupart d'entre nous. On le connaît même peut-être trop bien, moi en tout cas, et on le connaît tellement bien que ça ne change strictement rien à la façon dont nous fonctionnons. C'est incroyable, je parle pour moi, le nombre de textes que je connais, que j'ai lus 1000 fois, que je connais même par cœur, et ça ne change strictement rien à la façon dont je fonctionne. Et il y a un problème à ce niveau-là. Donc je vous en propose une nouvelle version de ce verset, plus courte. Laissez Dieu vous transformer en changeant votre façon de penser. Et devenir la personne que Dieu vous appelle à devenir repose en fait sur une simple directive. Pensez de grandes pensées, apprenez à penser comme lui pense. Les personnes qui vivent objectivement de grandes vies, qui ont du sens, ont en général de grandes pensées. Ça n'empêche pas les catastrophes, ça n'empêche pas les circonstances. Hein. Bon, je pense tout, là, c'est une petite parenthèse. Un des plus grands hommes d'État américains, C.S. Lincoln, hein, le président Lincoln, vous savez, qui a dirigé en tous les États-Unis du côté du Nord pendant la guerre de sécession, ce n'est pas une période facile à gérer. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il avait perdu un enfant et que sa femme était dépressive profonde, qu'elle lui cassait les buons tous les jours et que lui aussi était dépressif. Il a un jour dit à sa femme, je sais bien que tu es en souffrance par rapport à la perte de notre enfant, mais moi, j'ai la même souffrance. Il a quand même géré un état en crise et en guerre civile pendant 4 ans. Et il était en dépression, hein, mes amis. C'est avéré, on le sait aujourd'hui. Donc, mais il était profondément croyant. Aussi, ça aide. Pensée de grande pensée. Dont des pensées. Alors, grande pensée, ce n'est pas un truc extraordinaire. Hein. C'est apprendre à focaliser son attention sur des pensées qui vont vers la confiance, l'amour et la joie. Et quand je parle de joie, je ne parle pas de youpi, tout va bien, parce que parfois, rien ne va. Ça arrive, hein. Eh bien, cette joie peut être là. Cette capacité à nous réjouir en Dieu. Vous savez quand Dieu est le plus honoré par votre vie? C'est quand vous prenez plaisir en lui. Important. Ça c'est la bonne nouvelle aussi, on n'est pas tout seul pour faire ça. Essayez de changer vos émotions, ce que vous ressentez par votre propre volonté, sans permettre à l'Esprit de Dieu de modifier le flux de vos pensées, ben ça revient en quelque sorte, pour reprendre la même image, à remplir de fumée le terrier du putois tout en permettant au putois de vivre dans l'espace sous votre maison. Ça ne sert strictement à rien. Mais Dieu peut nous aider et veut nous aider à changer notre façon de penser. Alors il y a deux manières principales dont il se sert pour nous ouvrir à son travail. Parce que c'est ça surtout. S'il doit nous aider, il faut qu'on s'ouvre au travail qu'il veut faire. Donc on peut bloquer ce travail. Je vais être honnête, hein, ça sera pour les semaines, mais on peut bloquer ce travail. Quand quelqu'un nous a fait du mal, c'est très difficile quand on lui en veut de dire, moi je veux continuer à l'en vouloir. Il doit payer pour tout ça. Tant qu'on est là-dedans, ça ne s'est pas changé. Donc je suis honnête, hein. Humainement, c'est compréhensible. Mais j'ai encore lu ça, c'est une phrase de Stephen Smith, un psychologue américain. Il dit, quand vous pardonnez, vous libérez un prisonnier de prison. Et vous vous rendez compte, juste après avoir pardonné, que le prisonnier, c'était vous. Et je pense que c'est très juste. Mais quand on est dans le ressenti, aïe, aïe, aïe. Premier truc, si je peux dire ça comme ça, apprendre à surveiller ce qui se passe dans votre esprit. Devenir responsable de ce qui se passe là-dedans. C'est votre responsabilité. Personne ne peut être responsable à votre place de ce que vous pensez. Deuxièmement, apprendre à connecter nos esprits sur une meilleure fréquence. Apprendre à se concentrer sur des pensées positives. Parce que le problème, on fonctionne comme on fonctionne depuis des années, donc nos habitudes de pensée deviennent aussi habituelles que le fait de nous brosser les dents. Je ne sais pas vous, mais moi quand je me brosse les dents, je ne pense pas au fait que je me brosse les dents. Si vous vous concentrez, je dois bien aller sur cette molaire-là, je ne dois pas oublier l'incisive. Continuer, c'est super, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, je me mets le temps et je me brosse les dents. Et pendant que je me brosse les dents, par contre, qu'est-ce que je peux penser à des conneries dont je ferais parfois mieux de me focaliser sur le fait que je brosse mes dents. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Donc, après un certain temps, nous fonctionnons, nous avons ce type de pensée, ce type d'émotion qui en découle sur une telle période de temps qu'on n'y pense plus du tout. Mais c'est nous. On est résumé à ça. Nous sommes dès lors si accoutumés à avoir des pensées amères ou anxieuses ou égoïstes que nous ne remarquons même plus que nous avons ce genre de pensée. Donc, une des plus grandes barrières à un esprit florissant est ce qu'on appelle parfois être absent en esprit. Je pense qu'il y a des périodes où on est tous comme ça. Parfois, Isabelle me demande, tu étais où là? Et nulle part, chou, mais parce que je n'ai pas envie qu'elle sache où j'étais. Ce ne serait pas trop sympa de lui dire. Vous êtes à table avec quelqu'un, un ami de votre famille, par exemple, présent de corps, mais pas d'esprit. Et cette personne rumine ses problèmes, réels ou sublimés, Parce que face à une même situation, les réactions peuvent être totalement différentes. Il y a des gens qui vont ruminer, d'autres qui vont accueillir la situation avec beaucoup de résilience, en disant « c'est comme ça, il faut faire avec, on va essayer de magnifier cette situation pour le vivre le mieux possible ». Mais quand on est, et on passe tous par là, plus ou moins, suivant notre caractère, notre personnalité, il y a une sorte d'obsession sourde qui tourne en permanence, une sorte de moteur, répétitive et ennuyeuse, quasi hypnotique. Il y a des gens, quand je les regarde, ils sont sous hypnose, hein, vraiment. Hein, nourris de nos problèmes, de nos tâches. Et ça, c'est très présent. Il n'y a plus que ça qui soit présent. Je suis totalement absent d'esprit, même si ces pensées continuent à diffuser et à infuser et à se distiller dans mon âme. Les personnes qui m'entourent, sauf si elles ne veulent pas voir, savent bien que je ne suis plus là, car toute expressivité a quitté mon visage et aucun stimulus ne semble pouvoir le ramener à la vie. Je parle moins ou plus du tout, et quand je parle, je suis superficiel et laconique. Tout ce que je sors, ce sont des âneries, en fait. Quand je sors quelque chose, c'est simplement devenu une habitude de mon esprit. Alors on peut plus ou moins tous habiter par ce genre de phénomène. Certains peuvent à un moment ne rien dire alors que d'habitude ils disent beaucoup parce qu'ils sont en train de régler le problème. Ça, il faut le savoir aussi. Moi, je fais partie de ceux-là. Parfois, j'ai une tête à faire peur, je le sais. Et je dis, lâchez-moi pour l'instant. Mais je suis en train de me battre pour régler le problème. Mais quand on voit l'extérieur, ça peut faire très peur. Mais d'autres ne se battent pas, ils enfoncent. C'est vrai que je devrais, avec l'aide de Dieu, essayer de me battre spirituellement contre moi-même en ayant un visage. Ça, c'est le dernier stade du truc, du processus. Si Dieu me permet de vivre une centaine d'années. Voilà. Donc, contrairement à ce que beaucoup ont dit, la vie spirituelle commence par la prise de conscience et l'attention portée à nos pensées. C'est pas se battre contre des démons. N'essayez surtout pas de vous battre contre des démons. C'est pas ça le combat spirituel. C'est tellement décentré de nous-mêmes. C'est facile si on va aller combattre. Le combat spirituel, c'est se battre contre des grosses bébêtes. Essayer un coup, on va rigoler. C'est pas possible. Hein. C'est contre nous, contre cette ancienne nature, contre nos pensées négatives. Ces pensées qui nous détruisent un jour, à la fois ou sans nous détruire, qui nous confortent dans ce qu'on vit en disant c'est bien, c'est cool, ben voilà, la vie est belle. Mais parfois, elle n'est pas belle du tout aux yeux de Dieu. Je reprends, pour ça les psaumes, c'est invraisemblable, je trouve, hein, en particulier les psaumes de David. Je prends un verset dans le psaume 139. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve, et connais mes pensées. » Ce que David dit, c'est que Dieu connaît vos pensées mieux que vous-même. Et parfois, ça m'est arrivé de le dire à des amis ou même à ma femme, parfois j'ai un moteur, j'ai une attitude, c'est pas passé par là, hein. Quand je parlais de cœur unifié, quand mon cœur est divisé, je peux avoir une certaine attitude, je n'ai pas conscientisé cette attitude, je n'ai pas intellectuellement pensé à avoir ce type d'attitude. L'attitude est là. C'est plus fondamental que ça. C'est pour ça que David dit, Seigneur, moi, surtout à l'époque, on sait qu'historiquement, à l'époque, le royaume va bien, il a tout pacifié, il a étendu le territoire d'Israël, les ennemis sont vaincus, soumis, machin, ça se passe super bien. C'est une bonne période pour lui. Il dit quand même, oui, c'est une bonne période, mais il faut que tu me dises ce qu'il y a là-dedans, parce que moi, je suis pas sûr que, et un peu après, c'est patatras, c'est Bathsheba. Youpi! Est-ce que c'est fatigant? C'est fatigant, hein. Si on vous vend un évangile de la facilité, il faut changer de crèmerie, parce que ce n'est pas ça du tout. Hein. La vie chrétienne, c'est un combat quotidien. Un de mes amis m'a un jour dit, on ne peut pas dire que tu vends vraiment bien ton truc. Il ne faut pas mentir aux gens. Hein. Donc, la première chose que Dieu veut faire par la présence de son esprit en vous, c'est de nous faire découvrir, de vous faire découvrir ce qui se passe dans votre esprit d'un moment à l'autre. Donc, en apprenant, et c'est là que c'est fatigant, mais en apprenant en temps réel à surveiller ce qui se passe, je vais rencontrer de nombreuses pensées qui ne sont pas les bienvenues, qui ne devraient pas être là. L'anxiété, je vois tout en noir, je convoite, j'envie, etc. Mais je veux aussi commencer, puisque je constate ça et que ça me met mal à l'aise, je ne suis pas heureux par rapport à ça, je vais donc commencer aussi à reconnaître les pensées que Dieu veut instiller, qui sont à l'opposé de ça. L'opposé de l'anxiété, c'est la paix. Et c'est fondamentalement ce que Dieu veut nous donner, indépendamment de ce que nous vivons. Les martyrs chrétiens ne croyaient surtout pas qu'ils aient une dose du Saint-Esprit supplémentaire. C'est des couillonnades. Hein. Ils y ont été youpi, papa youpi, mais ils étaient en paix. Il y en a d'autres qui ont eu peur, la peur de leur vie et qui se sont prosternés devant l'empereur. Et moi, je ne les critique pas, je ferais peut-être la même chose, dans les mêmes circonstances. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, hein, pas avant. On va commencer à identifier les pensées que Dieu veut que nous pensions. Et l'apôtre Paul, c'est un grand théologien, mais on l'a souvent accusé d'être très intellectualisant, d'être très cérébral. En fait, je pense que Paul, pas toujours, mais il est souvent très pratique, mais on passe à côté de ce côté pratique de ce que Paul enseigne. Et c'est quand même un homme qui est mort martyr aussi, qui a été maltraité, en prison, bâtonné, lapidé, flagellé, tout ce que vous voulez, en conservant toujours sa joie et sa paix. C'est quand même extraordinaire, ça. Donc, lui peut parler de ça. Moi, je devrais m'abstenir, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà. Donc, pour vous dire que je ne suis pas Paul, vous avez remarqué, je pense. Donc, Paul nous a laissé un cadre pour comprendre quelles sont les pensées et attitudes qui proviennent de l'Esprit de Dieu. De fait, ça, c'est le principe fondamental. C'est de la psycho aussi, hein. Donc, la Bible est aussi un livre de psychologie. Hein. De fait, la nature humaine tend vers la mort. Donc, si vous tendez vers des pensées morbides, c'est assez normal. Mais vous savez en tant que chrétien que c'est votre ancienne nature qui tire dans ce sens-là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tandis que l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit Saint tend vers la vie. Pas la vie au plaboum, hein. Non. La vie du Christ en nous et la paix. Prenez une pensée, spécialement celle qui vous semble pesante et que vous tournez en boucle encore et encore dans votre petite tête, et posez-vous la question. Il y a toujours un truc qui tourne. Dans quelle direction me dirige cette pensée? Vous allez le savoir très vite, la réponse va venir forcément très vite. Vous n'aurez qu'à analyser votre état. Vous ne vous sentez pas bien, vous sentez seul, abandonné, fâché, pas peu importe. Ben, c'est clair que cette pensée, elle ne vient absolument pas de Dieu. Elle vient peut-être de vos circonstances et la façon dont vous réagissez à vos circonstances. Et je ne dis pas que c'est facile, hein, mais le chemin, ce n'est pas celui-là. Ou alors, est-ce que la pensée que vous êtes en train de penser est plutôt en direction de la vie, vers la version sanctifiée, divinisée de vous par la présence de Dieu, ou dans une autre direction? J'ai dit tout à l'heure, alors est-ce que ce processus, est-ce que cette prise de conscience, est-ce que ce combat quotidien est fatigant? La réponse est oui. Surtout au début. Mais mes amis, notre esprit ne peut pas devenir un hall de gare dans lequel tout le monde passe en permanence, comme il veut et quand il veut. C'est pas possible, ça. Notre esprit doit devenir, j'avais déjà employé cette image il y a très longtemps, mais je vous la ressors parce que j'en ai toujours pas trouvé de meilleure. Notre esprit, quitte à devenir quelque chose en termes d'image, doit devenir une discothèque. Encore une fois, pourquoi? Parce que devant la discothèque, il y a un physionomiste, il y a un sorteur, quelqu'un qui dit, toi, pourquoi un physionomiste? Parce qu'ils ont une capacité d'analyse des comportements. Moi, j'ai un pote qui faisait ça, il était super bien payé, il n'était pas une boîte de nuit particulière, il avait un service d'ordre avec oreillette la totale. Hein. Bon, déjà... double porte, hein. Mais un mec super calme. Il a, je pense que en 15 ans, parce que bon, il y a longtemps que je ne l'ai plus vu, mais en 15 ans de pratique, je pense qu'il n'a jamais frappé personne, pour vous dire. Hein. Ce n'est pas le boulot du physionomiste. Il regarde le gars, il dit, toi, tu ne rentres pas. Il dit, toi, tu ne rentres pas par rapport à quoi? Par rapport aux critères de la boîte de nuit. Les critères de mon patron, ça ne rentre pas. Vous devez apprendre à mettre un physionomiste à l'entrée de votre esprit. Et ce physionomiste, c'est pas n'importe qui, c'est l'Esprit Saint. Et les critères d'accès à notre esprit, d'après la direction générale qui devrait nous diriger, à savoir notre Seigneur, ben c'est toujours Paul qui en parle. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. C'est une décision que vous devez prendre et un combat que vous devez mener. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Je suis nul, ça n'est pas vrai. Vous n'êtes pas nul. C'est moi qui dis ça, mon âge. Vous n'êtes pas nul. Personne ne l'est. Aucun enfant de Dieu n'est nul. Tout ce qui est honorable, est-ce que je suis en train de penser, est en honneur à Dieu? Est-ce que Dieu est honoré par ce genre de pensée? Aïe, 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 aïe. Il y a des trucs... Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ouais, purifier. On a beaucoup parlé de la purification. Hein. Tout ce qui est digne d'être aimé, que Dieu aime, tout ce qui mérite l'approbation, dit ça c'est bien, ça c'est juste de penser ça. Ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, Dieu vous dit c'est bien mon grand. Quand vous pensez ce genre de... C'est bien mon grand de penser comme ça. Si ça ne passe pas de ces critères, la pensée, high kick, hein, dans sa tronche. Elle va revenir. J'ai discuté avec ce copain physionomiste. Il y a des... Ouais, là-bas, ils se cassent. Ils ne mettent pas de fausses moustaches, mais ils vont revenir. Déguisés, ils vont mettre une autre veste, des lunettes. Il m'a dit, ils inventent. Mais moi, je sais toujours que c'est le même type qui revient. J'ai dit, non, tu ne rentres pas, je te l'ai déjà dit. Par contre, c'est arrivé que le gars parvienne à rentrer quand même, et après, il fout le bordel. Il doit faire quoi? Il doit sortir le truc. Il doit sortir la personne de la boîte. C'est la même chose pour les pensées. Une fois que c'est rentré, ouf! Rappelez cette phrase d'un père de l'église d'Orient, père du désert, du Sinaï, qui disait « Votre âme, c'est une hutte de moine. Et il y a des interstices par lesquels la lumière de Dieu rentre dans votre âme. Mais par ces mêmes interstices, un serpent peut glisser. » Et dans le Sinaï, il y en avait. Il dit « Quand le serpent, il rentre toujours avec la tête la première. Hein, toujours. Il ne marche pas. Un serpent, j'en ai jamais vu qui peut exister. Moi, j'en ai jamais vu. » Et vous avez vu le rythme, hein, bon. Quand le serpent monte sa tête, vous voyez, c'est comme les samouraïs japonais. Le serpent, plus de tête. Il faut couper la tête tout de suite, c'est la même chose pour les pensées. Si vous laissez, le gars dit, vous laissez emprunter le serpent dans la hutte, vous allez devoir vous battre avec le serpent pour l'éjecter. Il parlait des pensées aussi, hein, voilà. Donc parfois, la pensée va revenir, surtout au début, hein. Surtout au début, à revenir, comme un grand boxeur, il prend, il recule, mais il revient. Parce que le but, c'est vous défoncer la tête. C'est pour ça que c'est un combat. Donc, si par exemple, votre vie, il y en a beaucoup aujourd'hui, et moi je ne critique pas, j'ai des tendances dépressives, heureusement moi c'est que des tendances, hein, je ne suis pas encore dedans tout à fait. Si votre vie est bloquée sur la fréquence dépression, amertume, colère, désespérance, égocentrisme ou autre, cela aura un impact sur votre entourage aussi. L'entourage, il sait bien où vous êtes. Hein. Et je vous le dis tout de suite pour vous encourager à prendre Dieu au sérieux. On n'a jamais vu personne rester en couple très longtemps avec un putois. On peut s'habituer à l'odeur, hein. Mais on construit rien avec un putois dans la maison. Hein. Alors, on va essayer de pratique. Je terminerai par ça. Je voulais les couper en deux, hein, pour ne pas vous assommer trop. Hein. Une des façons les plus simples, les plus efficaces de surveiller votre esprit, et de programmer votre réveil ou votre téléphone portable, hein, vous avez tout ça, ou quoi que ce soit d'autre qui puisse être programmé, et de le faire sonner à intervalles réguliers tout au long de la journée, pas toutes les 5 heures, c'est pas assez pour cet exercice. Toutes les heures, par exemple. Ou si vous êtes vraiment arrangé, toutes les demi-heures. Et lorsque ça sonne, notez ou relevez mentalement où vous êtes, ce que vous faites, et ensuite sur une échelle de 1 à 4, ou à 5 ou à 20, peu importe, hein, relevez votre pensée. Est-ce que ce que vous pensez amène de la paix? Est-ce que vous, ce que vous êtes en train de penser à ce moment-là, vous connecte à Dieu ou pas? Ça va être édifiant. Hein. C'est une connerie à faire, mais je vous assure, moi je l'ai fait ouïouïouï. Hein. Ça va aussi, à certains moments, ça va sonner quand vous êtes avec un certain type de personne. Je sais bien, les chrétiens doivent être accueillants, bien sûr. Hein. Oh, je t'aime et tout ce que tu veux. OK. Ils ont besoin d'entendre l'évangile, même les pires. OK. Mais il y a des personnes, si 3-4 fois ça sonne sur plusieurs jours et que chaque fois que vous êtes avec cette personne, vous n'êtes pas en paix du tout et déconnecté de Dieu, posez-vous les bonnes questions. Il y a des gens, je suis pasteur, non, moi je n'ai pas facile à faire ça. Mais qu'est-ce que ça m'a esquinté? Il y a des gens aujourd'hui, je ne les regarde plus. Je ne les fréquente plus. Pourquoi? Parce que je vais laisser ma peau. Et surtout, par rapport à mon ancienne nature à moi, je vais finir en prison, moi. Vraiment, hein. Parce que moi, quand quelque chose me montre trop, moi, je dégomme le truc. Hein. Ça, c'est ma nature à moi. Oui, vous n'êtes pas si mal quand même, hein, au niveau gestion de la bébête. Moi, j'ai essayé de trouver un animal pour imager mon ancienne nature. Je n'ai pas trouvé sur cette terre. Hein. Dragon, c'est peut-être pas mal, ça, un dragon. Un jaguar. Alors, faites ça quelques semaines. Donc, regardez quelles activités et quelles personnes vous aident le plus à vivre sous le contrôle de l'esprit, donc être en paix et connecté à Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut virer les gens qui ne croient pas en Dieu ou qui sont difficiles. notre boulot, mais il faut être conscient à certains moments que ce n'est peut-être pas le moment pour être en contact avec cette personne. Parce que vous n'êtes pas encore ce qu'il faut pour encaisser ça. Il y a des gens, je l'ai déjà dit dans d'autres messages, mais c'est vrai, il y a des êtres qui vous vident à un niveau cosmique, vraiment, hein, qui sont des trous noirs. Il y en a, c'est comme ça. Ils ne sont pas responsables, hein, tout à fait, pas entièrement en tout cas, d'être ce qu'elles sont. En attendant, ça va être une catastrophe à roulettes pour vous aussi. Quelles sont les activités et les relations qui bloquent l'action de l'esprit? Comment pourriez-vous changer ça ou, à tout le moins, diminuer cet impact négatif? La plupart de vous, ben, vous travaillez 7 jours sur 7, ça c'est les pasteurs, mais 5 jours par semaine, 8 heures par jour en règle générale. Ben, le boulot, ça peut être compliqué. Alors si c'est en rapport au boulot, le fait de n'être plus en paix ou déconnecté de Dieu, ben, il va falloir qu'avec l'aide de Dieu, vous travaillez pour avoir une autre attitude au travail. C'est 40 heures de vos vies toutes les semaines, le travail. Alors demandez-vous ce que les gens pensent de vous aussi, surtout ceux que vous aimez moins. On va se prendre, on va surprendre. Oh, ah oui, c'est mon truc là. Je pensais à quoi? Je suis en train de dénigrer un collègue devant d'autres collègues. Vous croyez franchement que vous êtes en paix, connecté à Dieu? Voilà. Vous êtes un enfant de Dieu aussi. Hein? Alors voilà, ça concerne les personnes, les activités. C'est idiot, hein? Vous pouvez le faire, ça. Hein? Bon, je vous encourage à le faire. Pas ceux qui partent en retraite une semaine, parce que ça, c'est tricher, quoi. Si vous essayez, enfin, quoique, hein, en retraite, ça peut nous tomber sur la retraite silencieuse, il peut y avoir des nuages noirs qui nous tombent dessus. Ça, mais être avec Yves Dudbinis, avec Daniel Bourguet, et ne pas être connecté à Dieu et en paix, il y a moyen, hein, je suis passé par là. Puis j'en connais d'autres qui disent, moi j'ai tiré la prise, donc le pauvre Daniel a plongé dans des abysses de réflexion. Donc revenons aux pensées, je vais terminer par ça, je termine. Hein. Même principe pour les pensées que vous êtes en train de penser. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes quand le petit truc sonne? Alors, je vais faire ça. J'aurais pu allonger une liste, mais sans fin, quasi non exhaustive. Hein. Relevez 3 adjectifs qui correspondent à votre état d'esprit habituel. Est-ce que vous êtes, quand ça sonne, est-ce que vous êtes à ce moment-là reconnaissant, curieux, borné, insatisfait, créatif, sur la défensive? Est-ce que vous êtes plein d'espérance ou au contraire désespéré? Est-ce que vous êtes fâché, anxieux, plein de courage, même si la situation n'est pas facile? Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que vous êtes plutôt passif, fataliste? Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce qu'au contraire, vous êtes déterminé et engagé? L'avantage, c'est que vous allez commencer à déculpabiliser par rapport à ce que vous ressentez, parce que vous allez dire, forcément, si je suis anxieux, fâché, sur la défensive et complètement déprimé, c'est pas étonnant que je vais pas bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais objectivement, vous allez dire, ah ben, je comprends que je vais pas bien. Et à partir de là, j'ai une partie de responsabilité dans le fait de changer ça. Donc, il faut que nous prenions conscience du flot de pensée présent dans notre esprit, mais tout en vous disant bien un truc, c'est que tout en ne vous projetant pas en disant il faut que ça aille vite, ce changement, parce que ce ne sera pas le cas. Donc il faut apprendre à être patient avec vous-même et ne pas vous traiter de nullité cosmique, encore une fois, si ça ne change pas en 2 semaines. Il y a des types... Parler d'ancienne nature, j'ai pas le temps de prêcher là-dessus, ce serait trop long, mais il y a des structures d'ancienne nature qui sont, nous avons tous une ancienne nature sensiblement différente. Moi, mon ancienne nature est violente. Alors c'est clair que cette violence, elle est beaucoup plus difficile à gérer à certains moments. D'accord? Et quand ça pète, évidemment, pour l'entourage, c'est cataclysmique. Parce que la peur vient, mais, j'ai dit ça à une personne il n'y a pas longtemps, vous pouvez être surexposé à quelqu'un de non-violent, mais qui va vous miner minute après minute après minute après minute, sans même vous en aperceviez, et qui va vous vider de votre énergie en étant parfaitement gentil en apparence. J'ai l'habitude de dire, il y a ceux qui pètent des plombs une fois de temps en temps, et puis il y a ceux qui sont médiocres que tous les jours. C'est un peu dur, hein, mais... Donc, il ne faut pas stigmatiser un type d'ancienne nature ou en idéaliser une autre. Tout ça, c'est du caca putois. Mais c'est là, il ne faut pas être naïf. Et tant qu'on sera ici bas, le combat sera là. Je pense que des gens comme Paul ou comme Pierre, ou comme Jean, Jean était quand même appelé Boanerges, ça veut dire fils du tonnerre. C'était un colérique, Jean, un explosif. Quand il écrit sa première épître, il a quand même 80 berges, donc ça allait être la marge. Petits enfants, il est tout doux, tout, voilà. Mais c'est 40, 50 ans de combat. Il y a une semaine ou deux, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, un exemple pratique. John Piper, qui est un, je crois qu'il est pensionné aujourd'hui, un pasteur américain qui écrit beaucoup de livres, entre autres qui a écrit beaucoup de livres très intéressants sur la joie en Dieu. C'est pas trop courant quand même dans les milieux protestants, donc ça vaut la peine de le dire. Donc je vous recommande ces livres, la plupart ont été traduits en français. Il dit qu'un soir, c'est très rare pour un pasteur, un soir, il n'a rien à faire. Tout est fait. Il dit, waouh, je vais me mettre dans le fauteuil avec un bon livre et je vais me faire un thé, ça va être le pied, quoi. Un moment pour moi. Il s'installe, il a déjà tout réjoui, son thé fume à côté de lui, il ouvre son livre. Ça fait 17 ans, descend, il allume la télé pour regarder son programme préféré. Vous imaginez le type de programme préféré d'une gamine de 17 ans. Et il explique, c'était un pasteur, hein. Il a à l'époque 65 ans, donc ce n'est pas un jeune. Hein. Il est là et il dit un truc qui monte. Je fais mon livre, je prends mon thé, je monte dans mon bureau et pendant deux heures, je me suis battu avec la pensée qui était en train de monter. Et il est très expressif quand même. Il dit, je lui ai shoté dedans jusqu'à ce qu'elle crève cette pensée. C'est ça la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est rendu compte que la pensée qui lui montait n'avait rien à voir avec Dieu. Et que s'il avait laissé monter, sa fille aurait pris une engueulade carabinée. Sa femme s'en serait... Enfin, vous imaginez, hein, mais pourquoi tu t'énerves pour un truc pareil? Et ça l'aurait énervé encore plus et on est parti pour une semaine de dégâts, minimum. Hein. Surtout que Piper explique qu'à la base, c'est plutôt un rancunier. Donc il en aurait probablement voulu à sa fille aussi, de l'avoir provoqué cette réaction épidermique. Quand je vous dis que ça prend du temps, qu'il faut être, il ne faut pas être trop dur avec soi-même, et cette image est déjà employée, mais je la trouve très jolie aussi, et je n'en trouve pas d'autre plus parlante que celle-là. Quand un tout petit, un bébé, commence à marcher, quand ils apprennent, ils tombent beaucoup. Un bébé qui apprend à marcher, il se casse la figure pas mal. Déjà, les parents l'engueulent pas. J'espère, pauvre type, tu es encore tombé. Ça doit exister, hein? Si, bah, malheureusement, oui. Mais personne ne va faire un bon parent, même pas parfait, mais un bon parent ne va pas faire ça. Mais le bébé lui-même, alors je ne suis pas un spécialiste du psychisme des bébés, là, c'est avec le psychisme des adultes. Le bébé se dit certainement pas quand il tombe, oh, je suis à nouveau tombé, mais quel con, quoi. J'arriverai jamais à marcher. Moi, je vais rester dans mon berceau, dans mon linge, et ils vont tous aller se faire foutre. Hein. Aucun bébé fait ça. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a certains qui sont à ce stade-là. Ils veulent peut-être pas vivre en bas. J'ai vu papa et maman, non, il n'y a pas moyen de les remplacer. Non, bah alors moi, je veux surtout pas marcher. Apprendre à marcher dans l'esprit. Ce n'est pas pour rien que c'est cette formule que Paul emploie le plus. Hein. Apprendre à marcher selon l'esprit nécessite au moins autant de grâce et de force qu'apprendre à marcher sur ses deux jambes. L'Esprit Saint vous poussera toujours à aller vers la meilleure version de vous-même, hein, la version que Dieu a initiée en vous. Et on pourrait, et je termine par ça, on pourrait imaginer ça sous la forme d'un schéma. Ça, c'est le schéma fondamental, basique de notre fonctionnement, du chrétien. La plupart d'entre nous, plus ou moins, suivant d'où nous venons, rappelez-vous, vous devenez chrétien. Peut-être que vous avez déjà un syndrome, donc un complexe de supériorité, ça arrive. Hein. Vous ne vous prenez pas spécialement pour... voilà. On devient un chrétien, on a l'Esprit Saint. Et quand on analyse objectivement les jeunes convertis, oh, la première période, c'est une catastrophe, on est tous... On était déjà pas mal avant, maintenant on a le Saint-Esprit. Quoi. On a la vérité. Nous, on sait, les autres sont des ploucs qui ne savent rien. On a un moi, bon, Freud le dirait autrement, ou Jungien, mais on a un moi gonflé. Notre moi, notre rien. Dégagé. OK ? Ça, c'est le début. Et puis, on commence à se... Rappelez-vous, hein, la douleur, c'est ce qui nous arrive quand notre âme rentre en contact avec la réalité. C'est pour ça que ce sont la souffrance qui nous amène aux prises de conscience. Puis à un moment, on se rend compte qu'on est quand même pas terrible. Et comme nous sommes pécheurs, il se passe quoi? On passe d'un mois surgonflé à un mois dégonflé. On a tendance à se cacher. Ça vous rappelle rien, ça? La chute, premier truc, il se planque. Il y a de la honte, la peur, on se sent indigne, on culpabilise comme des fous. Et on ne va pas bien du tout. C'est un schéma, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est pour vous expliquer que logiquement, on passe de l'un à l'autre. Certains passent de l'un à l'autre toute leur vie durant, plus ou moins. Chaque fois, même si un chrétien mature, logiquement, c'est ce côté-là qui se développe. Il désespère de lui-même. Et plus il en sait, plus il sait qu'il ne sait rien. C'est la meilleure définition de la maturité spirituelle. Et puis, ça, il reste pas là, parce que ça, c'est une catastrophe. Hein. Si vous restez là, vous êtes... ça, c'est les Baxter, hein. C'est une catastrophe. Vous êtes déprimé. Hein. Quand vous êtes là, l'Esprit Saint, il fait quoi? Il vous pousse à l'étage au-dessus. Je sais bien qui tu es, tu sais. Je sais bien que tu es nul. Je sais bien que tu ne sais pas faire un pas devant l'autre. Mais moi, je peux tout. Paul dit quoi? Moi, je suis encore un solide paye. Hein. Quel intellectuel je fais, quoi? Je parle 12 langues, tu te rends compte? Tous ces cons d'apôtres, ils n'ont rien compris. Moi, j'ai évangélisé le monde, ils sont restés en Judée. Qu'est-ce qu'ils sont nuls? Je peux tout par celui qui me fortifie, par la présence du Christ. Paul ne dit pas « je peux tout parce que je suis qui je suis ». Non, je peux tout parce que Dieu est là. Dans la première aux Corinthiens, si ma mémoire est bonne, il va dire « je suis le moindre de tous les apôtres parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Ça, c'est sa blessure. Je ne suis pas sûr qu'elle soit partie, cette blessure-là. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il ne se l'est jamais pardonné, mais la cicatrice est là. S'il en parle dans une lettre, c'est qu'elle est là. Mais il dit, mais la grâce, pas lui, hein, pas son moi, non, la grâce de Dieu a surabondé dans ma vie. Autrement dit, Dieu a fait plus de choses à travers moi qu'à travers n'importe qui d'autre. Il dit, mais pas moi, la grâce de Dieu qui est en moi, dont il est passé là. Donc, on bascule, n'ayez pas peur. Humilité, ce n'est pas mes qualités qui prévalent. C'est la présence de Dieu en moi. C'est ce qui me permet de, pas Paul le dire aux Philippiens, à ses frères Philippiens, parce qu'il est en prison, il pense qu'il va mourir, il va être condamné à mort. N'oubliez jamais ce principe fondamental, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Comment c'est possible? Ce n'est pas ma qualité qui compte. C'est celui que je suis en Christ. Donc, on oscille souvent entre les deux, mais on doit se stabiliser dans le schéma du centre. Pécheur, mais sanctifié. Un peu à l'instar d'Élie, je reviens à lui pour terminer, qui disait « je suis tout seul, quoi ». Alors qu'il y en a encore 7000 qui sont aussi bien que lui, qui courent les mêmes risques de lui. Ils n'ont peut-être pas reçu une lettre, mais en adorant le vrai Dieu, ils risquent les mêmes choses qu'Élie, quand ça se saura. Ils se cachent peut-être pour le faire, hein, comme les chrétiens dans les catacombes, hein, mais... ils risquent quelque chose, ou les chrétiens d'aujourd'hui, de l'Église persécutée, qui se réunissent dans des endroits secrets, ou les protestants sous Louis XIV qui se planquaient dans les assemblées du désert, dans les Cévennes, qui avaient inventé des hôtels démontables, des crises démontables. Enfin, allez voir, si vous passez un jour dans les Cévennes, allez voir le musée du protestantisme à La Rochelle, c'est pendant les Cévennes, mais soit. C'est invraisemblable, l'ingéniosité, ça se démontait, ça se mettait en sa poche, quoi. Moi, pasteur, pas du tout. Moi, je te reprendais, j'aime bien la forêt. Ces gens, je sais pas, ils promènent aussi. À 11h du soir, bah, écoutez, il fait frais le soir, on est en été. Parce qu'évidemment, si on pense qu'on est les seuls fidèles, les plus malins, les plus intelligents, et que les autres sont en dessous de tout, on va tomber dans la médisance et dans le jugement. Et on va se détruire son âme progressivement. Ce sont des mauvaises pensées. Cette première pensée, je l'ai dit, est ramenée à cette fameuse vieille tentation, la plus vieille du monde, bibliquement parlant. Vous serez comme des dieux. Tu parles. Parce que lorsque nous pensons à nous en termes de ressemblance à Dieu, nous devenons bien souvent obsédés par notre propre succès et notre propre bonheur. Et nous avons alors besoin de promouvoir une version gonflée de notre compétence et de notre importance. Et c'est là, je l'ai dit, que la réalité, tôt ou tard, nous frappe. Et lorsque ce moi idéalisé s'effondre, ce qui reste, c'est un moi dégonflé et déchiré et abattu. Entre parenthèses, c'est une partie de la conversion. Ça s'appelle la repentance. C'est prendre conscience dans la lumière de Dieu de qui nous sommes vraiment. Tant qu'on s'idéalise, on ne peut pas venir à Dieu. Comme Adam et Ève, nous avons alors envie de nous cacher. Nous pensons que nous n'avons rien à offrir, que tout est affreux à commencer par nous-mêmes. Et je termine par ça. L'Esprit de Dieu veut nous libérer aussi bien de notre prétention à être Dieu que de notre déprime à n'être rien. Les deux, on parlait de vérité, hein, ce qui est vrai, les deux sont un mensonge. Il existe un Dieu, et ce n'est pas nous. Il veut vous aider à être le vrai vous, la meilleure version de vous-même. Rajoutez ça, la version full option. D'accord ? Je continuerai la semaine prochaine, Dieu voulant. Que le Seigneur bénisse sa parole.